Dans les lectures de ce jour, nous avons un fil conducteur, en tout cas c'est ce que j'ai perçu, qui est la vie. En Ézéchiel, on a un peu l'impression de science-fiction. C'est assez drôle, parce que, au fond, on ne voit pas comment ça a pu se faire, ce tas d'os qui sont devenus des êtres humains, parce que nous avons, enfin, oui, qui sont devenus vivants, quoi, qui sont redevenus vivants. Et en fait, nous avons une manière de limiter l'action de Dieu qui est redoutable. Nous la limitons à ce dont nous avons éventuellement l'habitude. Alors, l'habitude, ça peut être bien et ça peut être terrible. Et au fond, bon, voilà, on voit cette scène, on se dit, ouais, bon, ouais, bon. Voilà, c'est un songe, c'est. Et en fait, cette scène, c'est à la fois une vision et à la fois une parabole. Et c'est une parabole qui annonce la résurrection, qui annonce la capacité qu'a Dieu. Non seulement de créer à partir d'un peu de poussière qu'il a lui-même créé, de créer un être humain à partir de terre, ce que l'homme n'arrivera jamais à faire, et à la fois de remettre debout des ossements desséchés. C'est-à-dire que il n'y a plus rien sur les os. Ils sont en vrac. Donc, c'est important pour nous de faire attention à notre représentation de l'action de Dieu et de ne pas limiter la capacité de Dieu qui est infinie. Et le signe, donc, que c'est Dieu, bah, c'est la vie. C'est que Dieu les mettra debout. Et alors, vous saurez que je suis Dieu. Voilà, c'est extrêmement simple, c'est que la vie s'est signée. L'homme n'est pas capable de produire la vie. Il la constate, il l'entretient, il la détruit, il cherche à la modifier, mais il ne peut pas la produire. C'est la marque de Dieu. Et dans l'évangile, je trouve que c'est un peu similaire parce que finalement, Jésus nous donne les deux commandements qui donnent la vie, qui permettent de vivre. En dehors de ces deux commandements, on est éventuellement dans la survie, mais pas mieux. Et alors, c'est intéressant parce que Jésus parle d'un double commandement. Bon, nous connaissons ça très bien, hein. Et est-ce qu'il y en a bien deux, au fond? Est-ce qu'il y en a bien deux? Parce que Jésus dit « Aimez Dieu de tout son cœur, toute son âme, et aimez son prochain comme soi-même. » Ça signifie qu'il y a trois personnes à aimer. Et c'est important parce que si on ne s'aime pas soi-même, comment on va faire pour aimer les autres? Si on ne consent pas à nos propres dons, j'ai bien dit, si on ne consent pas à nos propres dons et à nos fragilités, ça en général on les repère, comment nous allons pouvoir accepter les dons des autres et leurs fragilités? On va être dans la comparaison. Et en fait, c'est ce qui arrive dans cet évangile. Parce que cette citation de Jésus, elle vient de Lévitique 19, 18. Bon, on a ça dans les notes de Bible hein, et d'autres documents parfois de lectionnaires. Et c'est assez drôle d'aller voir le début de la phrase. Le début de la phrase, c'est « Tu ne te vengeras pas ». Alors je trouve ça drôle parce qu'en fait, on nous dit au début que que les pharisiens ont appris que les sadducéens se sont fait claquer le beignet, hein. Et c'est le mot qui, c'est le verbe qui nous relie à l'évangile d'hier. Nous retrouvons le verbe phimo. Ils se sont fait museler. Donc on n'a pas eu l'épisode des Sadducéens. On l'a pas entendu. On est passé du verset 14 immédiatement au verset 34. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a de commun avec toutes ces attaques que Jésus a subies? Bien, ils veulent le piéger. En fait, ils veulent se venger parce qu'ils sont jaloux. Ils sont jaloux de cet homme qui a réponse à tout, qui en plus a raison, qui n'est pas dans leur clou, qui n'est pas dans leur cadre, et qui est donc insupportable pour eux parce qu'il est un reproche perpétuel à leurs yeux. Et donc ils ne peuvent pas l'aimer, ils ne peuvent pas aimer leur prochain. Et au fond, ce que Jésus dit, c'est vraiment à plusieurs degrés à la fois. Voilà, vous le savez déjà, c'est dans le Lévitique. Je vous le remets en contexte parce que là, vous êtes en train d'essayer de vous venger au cas où vous n'auriez pas remarqué. Et puis, je crois qu'il y a un troisième degré qui était extrêmement profond et important. C'est que Jésus nous dévoile le cœur de son action. Le cœur de l'action de Jésus, c'est d'aimer son Père de tout son cœur, de toute son âme, etc. Et d'aimer son prochain. Alors lui comme lui-même, ça pose pas trop de difficultés vu que il n'est pas marqué par le péché originel. Et Jésus s'aime lui-même. Vous remarquerez que Jésus est capable de dire il y a ici plus que Salomon, ce que n'importe qui prendrait pour de l'orgueil, même l'imitation de Jésus-Christ. Dit que l'humilité consiste à avoir d'humbles sentiments de soi-même. Ouais, enfin, quand on dit il y a ici plus que Salomon, ça correspond pas très bien. Voilà, donc il faut être très très prudent sur l'humilité, comme dirait l'autre. Donc Jésus s'aime parfaitement, il est parfaitement humble, il est parfaitement dans la vérité. Donc il peut aimer son prochain. Et en fait, il nous livre le secret de son action. Tout en circonstanciant, si je puis dire, la demande qu'on lui fait. Donc pour nous, c'est vraiment l'occasion de, enfin, une invitation à la vie, à retrouver comment vivre, et donc peut-être à commencer par s'aimer soi-même, non pas en se nombrilisant, hein, mais en se recevant de Dieu. Dieu a créé quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel, il n'y en a pas deux pareils. Est-ce que j'aime ce que je suis? Comment je vais me donner si je n'aime pas ce que je suis? C'est un vrai problème, ça. Si je veux être quelqu'un d'autre, je vais donner quelqu'un d'autre. Enfin, je vais faire semblant de donner quelqu'un d'autre, mais pas moi-même. Donc vraiment avoir ce souci de se connaître. Souci auquel je pense qu'il faut relier la prière de Jésus. Cet amour de Dieu qui est inconditionnel et qui me fait penser à la prière du Père de Foucault. Vous avez peut-être entendu cette prière, vous l'avez peut-être dite, peut-être vous la dites pas. Vous disant non mais attends, tu as vu ce qui est écrit, ça va bien quoi. Et je suis récemment tombé sur un commentaire, cette prière, où là aussi elle est contextualisée. Et c'est tout à fait intéressant de découvrir que c'est pas une prière du Père de Foucault. Je veux dire par là qu'il l'a pas écrit comme une prière à redire, si vous voulez. C'est une méditation du Père de Foucault au moment de la Passion, au moment où Jésus dit: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc c'est une méditation de ça. Et je trouve que cette prière, en fait, si on la dit, Il faut plutôt écouter Jésus la dire. Parce qu'en fait, elle est l'accomplissement de ce que Jésus fait. Enfin, c'est la compréhension que le père de Foucault en avait. Et on peut trouver sur Internet ce commentaire en tapant prière du père de Foucault, bon, je sais plus quoi. On trouve un document en PDF qui explique très bien ça et qui la recontextualise et qui nous montre comment, pour cet homme, ce qui lui a permis effectivement d'aimer son prochain comme il a pu le faire. Eh bien, c'est ce don de soi à Dieu qui n'est possible que dans l'amour que Dieu nous donne et que nous pouvons, non peut-être pas restituer, mais nous laisser traverser par cet amour et le laisser revenir à Dieu. Voilà, donc que ce soit l'occasion pour nous aussi d'aimer ce que le Père a fait en nous et d'aimer le Père en retour. Amen.